Dame de Paris. Sauf qu'entre-temps, eh bien, les rédactions ont eu connaissance de ce qui était prévu. Première difficulté, donc, si rien de plus n'est dit ce soir. Deuxième difficulté, la forme de l'exercice, une conférence de presse face à 300 journalistes aux dernières nouvelles. On entend dire qu'Emmanuel Macron n'est pas très client ni des conférences de presse, ni d'ailleurs de la presse tout court. C'est donc un moment qui peut être compliqué pour le président de la République. Nous allons voir ce qu'en disent nos invités. Jackie Isabello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Olivier Roucan, bonjour à vous.
Bonjour.
Politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives de l'Université Paris 2. Panthéon Assas, Simon Le Baron du service politique de France Info. Bonjour Simon.
Bonjour.
Et bonjour à vous Thomas Négaroff.
Bonjour.
Historien de France Info avec vos archives sonores. Jackie Isabello, on peut commencer avec vous. Compte tenu, je le disais, de la séquence Notre-Dame, disons-le comme ça, est-ce qu'Emmanuel Macron doit forcément apporter ce soir une valeur ajoutée à ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire aux annonces qui étaient prévues? Est-ce qu'il faut de nouvelles annonces ou pas forcément, selon vous?
Hercine, imaginez-vous 300 personnes dopées par un seul dieu, l'information et la nouveauté, se déplacer, traverser Paris avec la circulation pour assister à quelque chose sans intérêt. Évidemment, ce qui s'est passé au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, ça a été une catastrophe communicationnelle pour ce président de la République. Un, il a été empêché de parler, et deux, on a éventé ces mesures. Donc ils ont dû repenser l'ensemble de la séquence, et comme le disent les Américains, ils ont été obligés de mettre en place une stratégie de spinning narrative, c'est-à-dire qu'une histoire, ça tourne, ça ne doit pas s'arrêter à une conférence de presse. Et donc ils ont reformaté le temps de parole, et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, il faut, un, dialoguer avec un public qui est très compliqué pour le président, je ne reviendrai pas sur les anecdotes, et deux, il faut prendre la main sur la séquence. En vous imposant une conférence de presse 2 heures avant les 20 heures, c'est-à-dire le temps sacré de la communication pour le métro parisien, comme aurait pu dire le général de Gaulle, eh bien c'est une manière pour le maître des horloges de reprendre la main. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des nouveautés, parce que commenter d'anciennes mesures, pour vous, ça n'a aucun sens professionnel. En revanche, écouter et puis se dire, tiens, cette mesure fiscale, qu'est-ce que ça veut dire? Et rentrer dans le véritable échange de la conférence, essayer de détailler, eh bien, c'est l'exercice journalistique. Donc, c'est pour ça qu'il le fait à 18h. C'est pour ça qu'il va faire un long discours préliminaire pour lancer cette confrontation, entre guillemets, et cet échange avec un public qui est compliqué pour lui.
Olivier Roucan, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, notamment sur l'aspect catastrophe communicationnelle autour de l'épisode de Notre-Dame.
Bon, c'était pas souhaitable, c'était pas souhaité. Simplement, il y a une faculté d'adaptation qui est réelle. Et l'aspect positif, c'est que ça a servi de ballon d'essai. Malgré tout, ces mesures ont été commentées, elles ont commencé à passer dans l'opinion. Donc, il y a ce bruit là, et ça permet au président de réagir. Alors, il va garder des mesures qui ont quand même été testées, notamment par les sondeurs pendant plus d'une semaine, etc. Va-t-il apporter une grande nouveauté? Bon, je n'en sais rien. L'exercice pour lui, là, c'est un exercice, à mon avis, intéressant pour resituer, redonner force à sa fin de mandat, hein, aux années qui restent. Donc, il faut qu'il y ait 2-3 grandes orientations claires qui permettent au grand public, à l'opinion, de savoir où ce président veut aller. Que sais-je, moi, l'écologie, la solidarité. Dans tous les cas, il faut qu'il n'y ait pas une série de mesurettes très détaillées, parce que tout le monde va s'y perdre, notamment sur la fiscalité, c'est rapidement très compliqué. Donc il faut resserrer sur des grandes lignes pour redonner du sens à la suite. Je crois que c'est ça l'enjeu.
Simon Le Baron, un mot peut-être sur la forme du rendez-vous. Il y aura d'abord un discours avant cette conférence de presse.
Un discours à propos liminaire d'une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure, pour fixer les grands caps, dire, c'est ce que nous disaient les communicants d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dire où il veut emmener le pays. Donc ça, ce sera le premier temps. Et puis après, l'exercice des questions-réponses avec les journalistes. Tous les journalistes vont vouloir poser des questions. Ils ne pourront pas tous le faire, puisqu'il y a plus de 300 journalistes accrédités qui seront dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et on nous dit à l'Élysée que cet exercice, au total, donc le discours introductif et la séance de questions-réponses, ne devra pas dépasser 2 heures. Peut-être dépasser un petit peu, mais on ne refera pas le débat avec les journalistes, nous disent les membres de l'entourage d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Sauf que on a discuté aussi avec certains de ses très proches, des membres d'En Marche historiques, qui nous disaient au contraire il aime cet exercice, il aime convaincre, il va vouloir répondre aux questions tant qu'il y en aura, et peu importe si ça dure des heures. Donc vous voyez que même sur la forme, le président va vouloir garder la surprise.
Oui, ça pourra éventuellement déborder.
Ça peut être très long.
Thomas Snegaroff, les présidents face aux journalistes, vous avez des documents à nous faire écouter.
Bon, on va commencer par la première, hein, parce que cet exercice, effectivement, est un exercice républicain qui remonte aux origines même de la Ve République, et même un tout petit peu avant, puisque le général de Gaulle est rappelé le 13 mai 58, et six jours plus tard, il vient devant les journalistes, et c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que les grandes conférences de presse, c'est quand le président vient dire quelque chose de précis. Et après, on verra que ça n'a pas toujours été le cas, notamment sous François Hollande, où ça s'est un peu dilué. Mais allez, revenons à l'origine, on est le 19 mai 58, on n'est pas à l'Élysée, on est au palais, au Quai d'Orsay.
Ceci dit, messieurs, je suis prêt à répondre à telles ou telles questions que vous voudrez bien me poser.
Ah voilà, c'est vraiment les débuts, les origines. Voilà. Messieurs, vous avez remarqué, il dit messieurs, il n'y a quasiment que des hommes dans la salle. Alors, avec le temps, ça va effectivement se diffuser, se multiplier. C'est le général de Gaulle qui en rappelle plus, hein, 17 je crois de mémoire, entre 58 et 1969. Pompidou en fera aussi beaucoup, et puis c'est un exercice qui va effectivement un peu se réduire avec le temps, jusqu'à ce que François Hollande décide pendant la campagne en 2012 de réinventer le genre avec une promesse de campagne qu'il va tenir à peu près, mais pas totalement.
Je considère que la conférence de presse pourrait être un rendez-vous régulier pour rendre compte de l'action que je conduirai au nom de la République au service des Français.
Alors effectivement, il va le faire, tous les 6 mois, grande conférence de presse, et puis ça va s'arrêter. En 2015, je vous écoutais évoquer la question de voir quelque chose à dire d'important. Bah, le problème, c'est cette parole un peu diluée. Là, l'intérêt de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, c'est aussi sa rareté, son caractère un peu inédit.
Olivier Roucan peut utiliser ça pour donner encore du poids à sa parole et à ce qu'il va dire, annoncer et peut-être détailler ce soir.
Oui, pour Emmanuel Macron, on revient un peu à l'usage des présidents avant François Hollande, donc un usage beaucoup plus rare. Le risque, si vous voulez, c'est d'avoir une conférence de presse trop convenue, parce qu'il faut quand même remarquer dans le temps qu'on est quand même sur quelque chose de très codifié, très cérémonial, et une mise en scène à l'avantage du chef de l'État, qui en général est surélevé avec le parterre gouvernemental et les journalistes qui sont quand même un niveau en dessous. Donc toute cette mise en scène, il faudra voir ce à quoi on a affaire ce soir. Et puis sur le plan des questions, moi je pense que Emmanuel Macron a gagné à avoir en face de lui des journalistes assez offensifs, ce qui nous changerait de ce à quoi nous avons l'habitude, et qui le valoriserait quelque part, voyez.
Jackie Isabello, vous avez l'air de douter là sur le fait qu'il faut qu'il ait des journalistes offensifs.
Non, je ne doutais pas, parce que évidemment personne n'a à dire aux journalistes la posture qu'il doit adopter, mais surtout on sait que Emmanuel Macron, dès lors qu'il se laisse aller à une certaine facilité, il a un rapport aux sémantiques qui peut être maladroit. Hein, et s'il veut dire des choses qui sont bien pensées intellectuellement, parfois il utilise des termes qui lui ont porté préjudice. Et souvenez-vous quand même que l'origine de cette crise qui devrait être soldée ce soir, c'est-à-dire cette crise des Gilets jaunes, eh bien, elle est venue aussi de cette forme d'arrogance qu'on a reprochée au président de la République.
Donc un risque de dérapage verbal.
Tout à fait. En tout cas, ils doivent le contrôler, et ils savent qu'il est incontrôlable, mais ils vont beaucoup l'analyser. Juste un dernier point par rapport au timing.
Non, ce sera après l'info. Ce sera donc tout à l'heure à 18h, face à plus de 300 journalistes aux dernières nouvelles. Jackie Isabello, vous aviez la parole juste avant l'info pour parler de timing, justement.
Je voulais juste dire aux auditeurs que c'est assez rare, 18h, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron a l'intention de prendre la main sur le sacro-saint 20h ? Va-t-il déborder ? Parce que si on pressent ce débordement, il va mettre la pression sur l'ensemble des rédactions. Et s'il prend la main sur le 20h, en débordant de 3-4 minutes, il va créer un moment politique où il pourrait dire des choses importantes. Alors les indices qui me permettent de dire ça, c'est que TF1 et France 2, qui sont des chaînes qui touchent très rarement leur programme, ont décidé de casser la fin d'après-midi, et dès 18h, la conférence de presse sera diffusée en direct sur ces antennes. Donc on pourrait se poser la question, ça ferait de cette conférence de presse un temps exceptionnel si le président décidait de conserver cette posture de maître des horloges également dans les rédactions.
Mais alors ça, c'est pas un président en difficulté, Olivier Roucan. Il a tout un tas de manettes comme ça qu'il peut utiliser.
Je voudrais rappeler quand même, par exemple, dans une enquête toute récente, l'état de l'opinion publique. Lorsqu'on demande aux personnes de se situer, première réponse, ils évoquent un sentiment d'inquiétude. Deuxième réponse, un sentiment de colère. Troisième réponse, de l'amertume. Quatrième réponse, de la peur. Et puis, vous avez deux, trois indicateurs plus positifs comme l'espoir, mais c'est bien en dessous. Donc, la parole présidentielle, on s'intéresse beaucoup. La parole présidentielle, là, ce qu'elle doit viser, c'est cet état de l'opinion. C'est-à-dire qu'il faut être à la hauteur, après ces mois de désordre et de crise, à la hauteur des attentes. Elles sont en plus très fragmentées. Hein, il ne peut pas avoir qu'un message vis-à-vis des Gilets jaunes, mais tous les Français qui ont peu ou moins pris la parole, ils se retrouvent là dans ce que je viens d'expliquer. Alors, à eux aussi, il faut adresser un message. Je crois que c'est ça, vraiment le cœur du sujet.
Donc, ensuite, en fait,
que les grandes chaînes bouleversent leur programme, etc. Très bien, mais si vous voulez, si elles le font et que le président n'a pas un propos fort et nourri,
c'est ça qui va compter d'abord. Et donc, le président... doit parler aux Français à travers les journalistes, évidemment.
C'est ça. Alors, c'est là où il y a l'utilisation, pour la première fois, finalement, par ce président, des relais d'opinion. Ça doit se nouer, alors, sous la forme de dialogue, mais je disais tout à l'heure, quand même un peu vif. D'ailleurs, Emmanuel Macron était demandeur de ça lorsqu'il a fait son interview avec Bourdin et Plenel. C'était pour se rapprocher un peu d'un style à l'américaine. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit, mais de faire évoluer ce style.
Simon Le Baron.
Avec une difficulté pour le président aussi, et je pense que beaucoup de questions vont porter là-dessus, c'est-à-dire d'annoncer des mesures très concrètes sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, etc. Et aussi de répondre aux questions sur son image, parce que Olivier Roucan le disait, il a suscité une colère, voire une haine qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines et ces derniers mois sur sa personne. Donc montrer qu'il a changé et qu'il a entendu le cri des Français sur cet aspect-là de sa personnalité. Et je pense que une grande partie de la conférence de presse va aussi porter là-dessus ce soir. Donc il va essayer de devoir jongler entre les mesures très concrètes et finalement cette part d'irrationnel autour de sa personne et de sa fonction.
Donc le fond, la forme et lui-même.
Thomas Sagan, et lui-même, alors sur le style à l'américaine, c'est un modèle américain, clairement voulu ainsi par le général de Gaulle, avec tout de même une grande évolution dans le temps. Hein. Ce général de Gaulle, il avait toutes les questions, le général de Gaulle. Et donc, les formules géniales, les répliques,
elles étaient préparées, travaillées, écrites,
etc. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué quand on va lui parler de la violence policière, par exemple. Évidemment, ils ont préparé ça, mais c'est plus difficile. Ils se retrouvent face à des journalistes qui peuvent être parfois en porte-à-faux. Et ça peut parfois déborder sur des tensions entre le président et les journalistes. Juste un extrait assez succulent. On est en janvier 2008. C'est la première grande conférence de Nicolas Sarkozy qui a eu des bonnes relations avec les journalistes pendant la campagne présidentielle. Il se retrouve face à Laurent Geoffrin qui lui pose une question qui lui déplaît. Et la réponse de Nicolas Sarkozy est très agressive.
Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective?
Voici une question modérée qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Bon, il a le droit d'avoir son avis sur la monarchie élective. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône ?
Et on se souvient de cet échange.
Ça continue, ça continue des minutes après.
On dit, Jackie Isabello, qu'Emmanuel Macron n'aime guère les journalistes. Enfin, est-ce que ses prédécesseurs les adoraient ? François Hollande, oui, peut-être.
Le plus proche, celui dont, comme Voldemort, il ne cite jamais le nom, lui, il les a un peu trop aimés. D'ailleurs, s'approchant du feu, ça l'a un peu détruit. Ils ont eu des relations complexes. On se rappelle de Jacques Chirac, qui a été le premier à introduire des méthodes américaines avec ses fameux prompteurs, mais qui avait une incapacité à faire percevoir cet homme de culture derrière cette forme de radicalité, cette espèce de grand bonhomme tout sec. Donc ils ont eu des relations un petit peu compliquées. Emmanuel Macron s'en est beaucoup servi. Certains ont dit qu'il avait été le chouchou des journalistes pendant la campagne, alors qu'il y avait l'affaire Fillon. Et puis, dès qu'il a pris la fonction, il a voulu vous écarter, vous mettre très très loin de lui. À mon avis, c'est une erreur. Nous, les communicants, on l'a dit tout de suite. Ça se prouve aujourd'hui.
Gérald Rod nous a rejoint. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Les conférences de presse des présidents, c'est comment ailleurs ? C'est comment aux États-Unis, on l'évoquait, où ces événements peuvent être assez tendus.
Oui, tendus entre journalistes et le président. Un exemple récent, assez exceptionnel, il faut bien le dire, c'est la manière dont un journaliste de CNN est malmené par Donald Trump lors d'une conférence de presse en novembre dernier, avec des questions sur l'immigration et aussi sur la Russie. Écoutez, ça c'est Trump qui parle là. Je pense que vous devriez me laisser diriger le pays, il dit. Et vous, vous occupez de CNN, vous auriez de meilleures audiences. Voilà. Le journaliste de CNN tente de relancer le président, mais il est coupé. Le président lui rétorque « That's enough, ça suffit ». Le journaliste se débat comme un beau diable. Trump le rembarre, demande qu'on lui prenne le micro. Et Trump s'écarte de son pupitre pour répondre.
That's enough. Put down the mic. Bon, alors là, c'est extrêmement violent. Ouais. À l'inverse, les présidents américains peuvent aussi être malmenés par les journalistes.
Oui, car les journalistes américains sont cash dans leurs questions et ils utilisent aussi ce qu'on appelle le follow-up, le droit de suite, c'est-à-dire qu'ils relancent le président s'ils ne sont pas satisfaits de sa réponse. Exemple, 1986, lors du scandale de l'Iran Gate, gros scandale de la présidence Reagan. À l'époque, les États-Unis avaient décrété un embargo sur les armes contre l'Iran et son régime islamique. Mais voilà, on apprend que ces mêmes États-Unis ont en fait vendu des armes à l'Iran en douce, sans l'accord du Congrès américain, et cela pour dégager de l'argent et financer une guérilla en Amérique centrale. Ronald Reagan donne une conférence de presse, il passe un mauvais quart d'heure, on écoute la question du journaliste. Alors le journaliste rappelle à Reagan que quand il a lancé l'embargo contre l'Iran, il a demandé publiquement aux autres pays de faire pareil, notamment aux alliés, mais dans le même temps, les États-Unis violent secrètement l'embargo. Comment pouvez-vous justifier cette duplicité, dit-il. Et là, le visage de Reagan est blême, ses yeux montrent de la peur, sa voix est assez faible, il tente de répondre.
I don't think it was duplicity.
Alors je ne pense pas que c'était de la duplicité, dit Reagan. Reagan se justifie comme il peut. Mais le journaliste le relance, et là, ça fait mal. Écoutez. Désolé, président, mais les sondages montrent que beaucoup d'Américains ne vous croient pas, tout simplement. Votre crédibilité a été sévèrement ébranlée. Pouvez-vous la restaurer? Qu'est-ce que ça signifie pour la suite de votre présidence? Voilà, RCI, France, USA. Des conférences de presse présidentielles, c'est deux salles, deux ambiances.
Gérald Rowe, tous les jours dans le 12-14 de France Info. Merci à nos invités, Jackie Isabello et Olivier Roucan à notre table.